sujet qui va être traité ce matin. Et pour ceux qui voudraient suivre dans leur Bible, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Et si vous voulez bien, avant de commencer notre méditation, je voudrais prendre quelques instants pour prier. Seigneur, c'est un jour de joie aujourd'hui particulièrement. Et Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix, dont nous sommes au bénéfice aujourd'hui encore. Seigneur, je veux te remettre ce temps où nous allons écouter ta parole, ici, dans toutes les églises de la terre aussi. Et je te demande, Seigneur, de veiller sur les serviteurs qui ont la charge d'annoncer cette parole et dont je suis. En ton nom. Amen. Les premiers versets que je vais vous lire ici ont déjà été lus ce matin. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ». Donc le sujet n'est pas secondaire, c'est quelque chose qui tient vraiment Paul à cœur. « Ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour ». Comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Paul souligne ici l'importance des faits qui se sont déroulés pendant ce week-end pascal et il prend le temps d'insister sur l'authenticité historique des faits rapportés. Reprenons quelques-uns de ses arguments. Tout avait été annoncé d'avance par les Écritures et tout s'est déroulé comme annoncé. Dans Ésaïe 53, 8 siècles donc avant Jésus-Christ, on peut lire « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Les gens de l'époque ne pouvaient pas penser qu'on parlait de Jésus, mais c'est bien de lui qu'il est question dans ce texte. Jésus lui-même, dans l'évangile de Marc au chapitre 10, enseigne « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Tout avait été annoncé, et je ne sais pas si un jour vous est venu à l'esprit cette idée de dire, ben, puisque tout avait été annoncé, c'était facile de suivre le scénario. Dites à quelqu'un de subir le sort qu'a subi Jésus. Vous voyez si même le scénario est écrit, s'il est déjà volontaire pour y aller. Et puis, la crucifixion, par exemple. Ça, c'était pas le mode d'exécution des Juifs. Les Juifs, ils lapidaient. Or, il a bien été dit que Jésus serait mis au bois. Il y a des détails comme ça qu'on peut relever. J'essaierai de faire bref ce matin, donc je ne prendrai pas le temps de développer tous les aspects qui seront évoqués ici. Mais entre autres, par exemple, Paul rappelle la multiplicité des témoins directs qui peuvent attester de ce qu'ils ont vu. Au moment où Paul parle, on peut aller voir les gens et les interroger. Pierre aussi, à l'occasion de la Pentecôte, dans le livre des Actes, au chapitre 5, dit « C'est ce Jésus, il dit avant, que vous avez crucifié ». Que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et puis pour ma part, il y a aussi quelque chose qui me paraît très fort, c'est le comportement des premiers disciples. Ce n'est pas des naïfs qui croient à la première fable qu'on leur raconte, vous avez bien vu dans le film, là bon, vous me direz c'est un film, c'est une reconstitution, c'est une interprétation du scénariste qui imagine les choses comme ça, mais ils ont eu de la peine à croire. le plus frappant, c'est Thomas qui dit « Moi, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Tant que je n'aurai pas mis ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Ce n'est pas des naïfs, ce n'est pas parce qu'on a 2 000 ans de plus qu'on est plus intelligent, plus averti qu'eux. Et ces hommes, ils avaient pris la fuite. Ils étaient barricadés derrière des portes par crainte des Juifs. Et tout à coup, ils sortent, ils vont au-devant des gens, ils parlent, ils exposent leur vie, ils n'ont plus peur. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Seul un événement vraiment extraordinaire peut changer le comportement des gens à ce point. Alors, bien sûr, il y a de tout temps eu des tentatives pour nier l'historicité des faits, souvent tardivement d'ailleurs quand on regarde. 17e, 18e siècle, on tente des explications. Les 500 personnes ont eu des hallucinations collectives. On avait mis un autre homme sur la croix, c'est pas Jésus qui est mort. Jésus n'était pas mort, il était évanoui, c'est pour ça une fois dans le tombeau, il s'est levé, il est parti. Jean-Jacques Rousseau a déclaré « C'est pas comme ça qu'on invente une histoire » en parlant de l'évangile et du récit. Et quand je lis toutes ces tentatives de négation, je me dis qu'il faut encore plus de foi et de crédulité pour croire à ça que pour croire aux évangiles. Alors on peut se poser la question, pourquoi Paul se donne-t-il la peine d'insister sur cette authenticité alors qu'il s'adresse à des croyants? Il parle à une église, il n'est pas en train de faire de l'évangélisation au sens aller vers des gens qui ne connaissent pas le message. Ces gens, ils l'ont déjà entendu. Il dit au chapitre 15, verset 20, « Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Ça, c'est la version du semeur. Dans la version Louis II, il est dit « Il est les prémices de ceux qui sont morts », ou dans la version Darby, « Il est les prémices de ceux qui sont endormis ». Paul affirme ici avec force et conviction que la résurrection de Jésus annonce notre résurrection, ce dont certains Corinthiens semblent douter, voire même remettre en cause. Et Paul de dire au verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Et il argumente, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Alors son raisonnement à Paul paraît à la fois simple, on parle quelquefois de simplicité biblique, c'en est peut-être un exemple ici, mais en même temps, on peut imaginer des tas d'objections à ça. Alors pourquoi Paul suit-il ce raisonnement? Mais je crois que le raisonnement de Paul repose sur un argument très simple, Christ est réellement mort, et Christ était réellement un homme. Donc si Christ est ressuscité, c'est que c'est possible. Si ce n'est pas possible qu'un homme ressuscite, Christ qui était un homme et qui est mort, lui non plus, n'est pas ressuscité. On a envie d'ajouter à la suite de Paul, soyez cohérents avec ce que vous dites. Et peut-être aussi certains Corinthiens, là c'est moi qui essaye d'imaginer les questions qui pouvaient se poser, parce que Paul dit bien dans son épître qu'il croyait en la résurrection du Christ, mais il disait que les corps ne ressuscitaient pas. Peut-être que Christ était une exception finalement. Il était fils de Dieu, donc lui, il est ressuscité, mais nous, on est des hommes. Moi, je vois plusieurs raisons, dans plusieurs arguments possibles. La résurrection du Christ, c'est le signe que Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. En ressuscitant Jésus, Dieu montre qu'il pardonne aux hommes pécheurs. Alors, quel sens cela aurait d'accorder une grâce à un pécheur condamné à mort, tout en le laissant sous le poids de sa condamnation? En résumé, gracié, mais exécuté. Vous imaginez ça? Il y a quelque temps, en France, il y avait encore la peine de mort, la possibilité de faire appel au président de la République, le président gracie, et on exécute le condamné. Ça n'a aucun sens. Autre point, me semble-t-il, c'est que la résurrection de Christ manifeste la victoire de Dieu sur Satan. Vous savez qu'en poussant l'homme à désobéir, Satan a provoqué sa chute. Et si l'homme demeurait mortel, eh bien ça signifierait que Satan aurait réussi au moins en partie à empêcher le plan de Dieu, à entraver sa volonté, à limiter sa toute-puissance. Lorsque Jésus dit sur la croix « Tout est accompli », il affirme qu'il a réduit à néant l'œuvre de Satan et ses conséquences. Et vous savez, la pire des conséquences, ça a été le salaire du péché, c'est la mort. Il a vaincu la mort, il a balayé la mort. En conséquence, il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 21, « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Jésus donne la vie et sa résurrection est la preuve que c'est possible. Dans le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, Paul veut montrer à ses interlocuteurs que la question de la résurrection des morts, c'est une question primordiale. Ce n'est pas secondaire d'y croire ou de ne pas y croire. Et se méprendre à ce sujet peut être lourd de conséquences. Et il en détaille quelques-unes. Si vous voulez lire au verset 14. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Vous allez croire en quoi? Aux promesses faites par la parole de Dieu? Et Dieu n'aurait pas eu le pouvoir de ressusciter Jésus? Si Christ n'est pas ressuscité, et dans le raisonnement de Paul, ça veut dire si les hommes ne ressuscitent pas, notre foi est vaine. Notre foi est une illusion, dit-il, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés, au verset 17. Si Dieu n'a pas ressuscité Christ, alors la mort d'un innocent, injustement condamné, signe la victoire du mal. Quelle raison d'espérer y aurait-il encore? Rappelez-vous les disciples, le vendredi soir. Jésus crucifié, ils ont l'impression que c'est la fin de tout. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Si Christ n'est pas ressuscité, on est le vendredi soir. On n'est pas dimanche matin. Et Paul arrive à cette conclusion, « Si les morts ne ressuscitent pas, au verset 32, alors comme dit le proverbe, eh bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et Paul de conclure, pour cette partie-là, au verset 19, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Et ça, je vous avoue qu'il y a des années, quand je suis tombé sur ce verset, ça m'a interpellé parce que ça nous oblige à nous dire, mais finalement, je crois en quoi? Est-ce que je crois en Jésus pour ma vie quotidienne? Et ce n'est pas à négliger. Ou est-ce que ma foi me pousse à voir plus loin encore que cela? Et Paul de conclure ce paragraphe au verset 20 en disant « Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. » Beaucoup parmi nous, probablement, peuvent témoigner de ce que leur foi leur a déjà apporté. Je vous parle pour moi, chacun mettra ce qu'il veut, mais l'assurance de se savoir aimé, j'ai eu des parents aimants, mais c'est quand même autre chose encore que de se savoir aimé de Dieu. Savoir qu'on n'est pas le fruit du hasard, d'une combinaison de molécules heureuses, qui fait que ça y est, nous sommes ce que nous sommes. D'être pardonné, quand on a pris conscience de nos fautes, le réconfort de se savoir écouté dans la prière. Vous avez probablement connu des gens qui aujourd'hui sont chrétiens, qui ont eu des vies qu'on appelle communément des vies de patachon, enfin des gens qui ont eu leur vie complètement bouleversée quand ils ont rencontré le Christ, des gens qui ont été délivrés d'addiction alors qu'humainement on pensait qu'ils ne pourraient pas s'en sortir. Toutes ces choses, nous en bénéficions dès à présent. Et pourtant, aussi importantes soient-elles, Paul nous dit qu'elles ne sont pas comparables à celles qui nous sont promises dans l'éternité. Si nous en restons à ce stade-là, nous sommes les plus malheureux des hommes. Bon, Paul le dit, c'est pas Philippe Delbecq qui va aller dire le contraire. Même si ça paraît un peu surprenant, on se dit « il y a pire que nous ». Mais voyez quand même, Paul veut insister, si vous oubliez la dimension de la résurrection, vous oubliez l'essentiel. 2 Corinthiens 4, verset 18, « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, ce que nous vivons en ce moment, c'est passager, les invisibles sont éternels. » Alors j'ai eu la curiosité de me dire, mais que dit la Bible au sujet de la résurrection, pas de la résurrection de Jésus, mais de la résurrection des hommes? Eh bien, Jésus en parle comme d'une réalité certaine. Aux Sadducéens, qu'il interroge pour le piéger, il déclare « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Ou dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, quand il va ressusciter Lazare, il s'entretient avec Marthe et il lui dit « Ton frère ressuscitera ». Et Marc lui répond « Je sais, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Donc c'est bien un enseignement qu'ils avaient déjà à cette époque. Mais là Jésus lui parle d'une autre résurrection, de celle qu'il va effectuer sur Lazare. Et à cette occasion il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Alors, il faut être de mauvaise foi pour penser que Jésus dit ce jour-là que les hommes ne mourront plus. On sait bien qu'on continue à avoir une vie terrestre qui a une fin. Mais ce verset nous dit que la mort de notre enveloppe charnelle, ça n'est pas la fin de tout, comme certains le croient. Je ne sais pas, vous avez sûrement entendu ça. Moi, j'ai entendu mon père aussi, encore récemment, dire « De toute façon, après, c'est la terre. Il n'y a rien derrière. » Eh bien, Jésus dit, après la mort, c'est la résurrection. Et il nous dit que nous pouvons, dès maintenant, goûter à cette vie éternelle. On n'en a que les prémices, que les avant-goûts. Nous sommes encore dans notre corps, nous sommes encore dans notre nature pécheresse, mais nous avons l'assurance que les promesses de Dieu s'accompliront. J'en ai relevé quelques-unes de la bouche de Jésus même, Jean chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je ne sais pas si une telle pensée vous a traversé l'esprit avant de lire l'Évangile. Moi, je me suis converti à 26 ans, j'ai eu le temps de penser un peu avant. Jamais j'ai pensé que Jésus-Christ, dont j'avais entendu parler, était venu pour me préparer une place et me faire entrer avec lui dans sa maison. C'est proprement incroyable. Jean, chapitre 17... dans la prière sacerdotale, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et plus loin, au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est très fort. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. L'une des conséquences aussi de négliger la résurrection, c'est que la Bible nous enseigne que tous ressusciteront. Jean 5, verset 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Quand mon père dit « Après, il n'y aura plus rien, c'est la terre », c'est pas ça qu'il attend. C'est pas rien. C'est le jugement. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Voyez où ça mène de ne pas envisager la vie après la mort. Alors j'en arrive à la conclusion. Il y a plein de choses à dire, mais quelques idées simples. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et je me dis, puisqu'il y a une vie éternelle, eh bien je dois m'y préparer. Ce que je fais aujourd'hui, les choix que je fais, ce que j'accepte ou ce que je refuse, ça a des conséquences dans l'éternité. C'est Jésus dans l'évangile de Matthieu qui dit « La vie n'est-elle vraiment rien de plus que le manger et le boire ? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» On voit bien toute la différence entre notre quotidien, tout ce qui est terrestre, et ce qui nous est promis. C'est aujourd'hui qu'il nous faut préparer l'éternité pendant la durée du temps qui nous est imparti. La rapidité avec laquelle le temps passe devrait nous faire réfléchir. Le terme de notre vie est fixé, on ne sait pas quand, et demain ne nous appartient pas. Voilà pourquoi il est de notre responsabilité de nous préparer sérieusement à la résurrection, à ce grand voyage. Et Jésus nous a rappelé avec certitude qu'il n'y a que deux destinations possibles. Alors on accuse la Bible d'être manichéenne. C'est blanc ou c'est noir, c'est trop simple. Mais c'est pourtant la réalité. Et on se souvient pourquoi Paul a pris le temps d'attester l'authenticité de la résurrection. C'est là-dessus qu'il se base pour donner la force à son raisonnement. Il n'y a que deux destinations possibles, avec Jésus dans son paradis de gloire, ou bien loin de lui, et vous savez qu'il nous est dit qu'il y aura des tourments, des grincements de dents et d'amers regrets. Le Christ nous donnera dans l'au-delà la place que nous lui avons consentie dans notre vie, durant notre séjour ici-bas. Il est notre Créateur, et là c'est un autre contexte, c'est le prophète Amos, au moment où Dieu va juger son peuple, Israël, qui a commis des crimes qui horrifient Dieu, il lui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Bien sûr, pour nous, on n'est pas dans cette situation d'aller au jugement pour avoir la sentence exécutée. Mais enfin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque chrétien peut se souvenir aussi de cette parole. Car il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, « Le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu. Ainsi, le Christ est mort une seule fois pour porter nos péchés. » Le « une seule fois » montre bien qu'il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer. Le chrétien cherche à mettre en pratique les consignes de son maître, par obéissance bien sûr, mais surtout parce qu'il reconnaît que son Créateur est bien plus qualifié que lui pour tracer la voie de sa vie. Il a aussi l'assurance que Christ, qu'il a aimé au point de mourir pour lui, et on l'a vu dans la vidéo, cherche son bien ultime à travers ses exigences. Nous savons que c'est toujours notre intérêt que de l'écouter et de lui obéir. Jésus, après avoir résumé les principes moraux de son enseignement dans le Sermon sur la montagne, conclut avec une parabole assez connue que je relirai, qui se trouve dans Matthieu 7, versets 24-27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Vous savez ce que les chrétiens orthodoxes se disent à l'occasion de Pâques ? Quand ils se croisent, le premier dit « Il est ressuscité » et avec vous, je vous propose la deuxième réponse « Il est vraiment ressuscité. » Amen. Petit détail technique, la chorale va interpréter un chant, il faudra aller chercher les personnes qui sont de service auprès des enfants, si c'est possible.